Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le cannibalisme comme une métaphore de notre relation à l'autre, mais aussi de la dévoration qui est au cœur de nos sociétés. On en parle avec notre invité, l'anthropologue Mondaire Kilani, auteur du Goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale qui paraît au seuil. Il sera avec nous après le journal de Camille Magnard. Mais d'abord, portrait hirsute d'une mère, celle de Geneviève Brisac, qui mélange une fois encore les genres littéraires et masculin-féminin dans Le Chagrin d'aimer, publié chez Grasset, l'éditrice et romancière est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
Grande table, Olivia Gesbert.
Dans Le Chagrin d'aimer, elle se réinvente une mère, la sienne, et lui cherche un passé. Qu'est-ce que l'amour d'une mère? Par quoi ça passe? On écrit pour comprendre ce qu'on ne comprend pas, dit-elle. Dit parce qu'elle écrit comme elle pense, à voix haute, par fragments. Bonjour Geneviève Brisac.
Bonjour Olivia.
C'est un roman-récit qui parle du passé, mais écrit au présent, celui de l'histoire en train de s'écrire. Vous dites, vous nommez, vous écrivez, vous rendez les personnes présentes et leurs paroles vivantes, et le lecteur témoin. Pourquoi avoir eu envie de nous associer à cette quête assez intime, somme toute, cette quête de mère?
C'est une question difficile. J'ai souvent pensé que les écrivains ne faisaient pas nécessairement ce qu'ils voulaient, ils faisaient peut-être ce qu'ils pouvaient. J'ai très longtemps pensé que jamais je n'écrirais sur ma mère, et puis c'est arrivé. Et c'est certainement, comme vous le disiez, parce qu'on écrit avec ce qu'on ne sait pas et avec ce qu'on ne comprend pas que j'ai été amenée à le faire. Si vous le souhaitez, je peux remonter un tout petit peu la généalogie de ce livre qui vient comme une espèce de morceau d'un grand puzzle qui serait, à mes yeux, l'ensemble de mes livres, s'ajouter à Une année avec mon père ou à Petite ou à Vie de ma voisine. Et celui-là, effectivement, est dans la continuité de Vie de ma voisine, qui racontait, Vie de ma voisine racontait le destin de rescapée d'une femme, Jenny Plocky, et était centrée autour d'une scène bouleversante, un face-à-face avec sa propre mère qui s'apprêtait à partir à Auschwitz. Et Jenny parlait très bien et beaucoup et de sa mère, et plus elle en parlait, et moins je pouvais me représenter la chose, tant ma mère était différente, ailleurs, opposée à cette mère-là. Il y a une infinité de modalités de mère. Et c'est devant mon ignorance de ce qu'était une mère, je me suis dit, au fond, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'une mère. Et c'est une étrange sensation. Et donc, je suis partie à la recherche de la mienne, qui pourtant, je n'étais pas orpheline. Hein, j'ai eu une mère pendant de très nombreuses années. Elle a disparu il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et partir à sa recherche était très difficile parce que c'était une femme sauvage, énigmatique, excentrique, rescapée elle aussi à sa manière. Et donc c'est ce sauvetage-là que j'ai voulu donner à lire, quoi. C'était aussi un personnage très littéraire, il faut bien dire.
Dans Le Chagrin d'aimer, comme dans Vie de ma voisine, on voit une écriture aussi contre l'oubli et la disparition. Si on en revient à cette mère qu'on va essayer de raconter, première énigme, celle du rapport que votre mère entretenait au passé, c'est-à-dire aucun. Ce n'est pas intéressant, disait-elle, en tout cas c'est comme ça que vous le retranscrivez. Elle était fâchée avec quoi? Avec le passé en général, ce temps de nos vies, ou avec son propre passé?
Elle aimait beaucoup l'Antiquité, elle aimait beaucoup la mythologie, elle aimait le grand passé, le passé très lointain. Elle n'aimait pas le passé individuel, le passé anecdotique, et elle n'aimait pas se pencher sur sa propre histoire qu'elle trouvait... à vrai dire, je pense... Je sais pas ce qu'elle trouvait, parce qu'après tout, qu'est-ce que j'en sais. Je pense réellement qu'elle n'avait pas beaucoup de souvenirs de ces histoires-là. Ses deux parents étaient des apatrides, étaient venus de très loin et avaient coupé les ponts, si on peut dire. C'est-à-dire que ma grand-mère était grecque Elle avait quitté la Grèce toute petite enfant. Elle n'y était jamais revenue. Elle portait un grand nom de l'histoire de la Grèce, puisqu'elle s'appelait Métaxas. Elle était devenue danseuse à Bruxelles, puis à Paris. Une danseuse orientale dans les années 10, comme beaucoup d'autres. Elle était devenue célèbre comme danseuse. Et tout ça était un petit peu scandaleux. Avoir une mère danseuse nue, c'est pas non plus la chose dont on peut se prévaloir, même si elle n'était pas complètement nue. Elle avait cette chevelure sublime, disait ma mère, mais en fait elle n'en parlait pas et ça lui faisait honte. Cette femme donc assez particulière, d'une grande famille grecque, un peu déclassée finalement, avait rencontré un Arménien turc, mon grand-père, qui répondait au beau nom de Bogosian Bey Misirl, et qui est quand même un nom assez difficile à porter finalement, et qu'on appelait Bogos ou Bob. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des enchaînements de noms et de surnoms, comme on faisait à l'époque, qui créaient une poésie assez particulière. Hein. Et donc ce Bogosian Bey Misirl était un Arménien de Constantinople, d'une très grande famille de serviteurs du sultan. Et lui aussi avait dû fuir, mais alors lui fuir le génocide des Arméniens, évidemment on en parlait encore moins.
Oublier d'où l'on vient, Geneviève Brisac, c'est comme un héritage que vous refusez quelque part. Titre du chapitre, ma mère ne se souvient plus du tout de ma naissance. Avec émotion, dans un kamikaze élan de tendresse, je m'assois à côté de ma mère. Je crois pouvoir lever le sortilège. Je voudrais, dis-je, que tu me racontes ma naissance. Ah, dit-elle, je n'en ai gardé aucun souvenir. Elle peut se priver de son passé, de cette mémoire, de sa propre mémoire, mais quelque part, vous estimez qu'elle ne peut pas vous priver, vous, de votre histoire ou de vos origines. Sa vie est un vaste trou de mémoire, un abîme dans lequel vous allez vous laisser tomber tout doucement dans ce livre, en vous raccrochant à une succession de fragments et de micro-souvenirs pour reconstituer, vous l'évoquez, ce puzzle, le puzzle de son existence et de la vôtre. Et là, ma mère est exaspérée, ma mère et les bébés, c'est con, ma mère tape à la machine, ma mère fume bis, parce qu'elle fumait beaucoup, votre mère. Tous ces fragments, vous les avez donc compilés de manière très subjective dans ce récit roman. Pourquoi ? Pour ne pas sombrer aussi ? C'est à ces souvenirs que vous vous raccrochez ?
Non, je pense pas être en danger de,
en danger de mémoire.
Dans la mémoire, j'en ai pas plus qu'elle et même moins. D'une autre chose. Non, c'était pas ma mère, comme vous le dites très justement, était un personnage éminemment romanesque. Donc, pour l'écrivain que je suis, c'était quand même extrêmement attirant et presque impossible de résister au désir d'en faire ce portrait un peu ce portrait moderne. Une amie m'a dit, après avoir lu Chagrin d'aimer, que c'était comme une installation d'art contemporain. J'ai trouvé que c'était... Enfin, j'y avais pas du tout pensé moi-même, évidemment, mais j'ai trouvé que ça avait une certaine pertinence, un peu comme... C'est un portrait de morceaux composés, et ça, c'est très contemporain. Et puis, je l'ai écrit... Dans l'amnésie, exactement comme j'avais écrit un autre livre il y a de nombreuses années qui s'intitule Petite, parce qu'en fait le processus même de l'écriture, et c'est évidemment ce qui m'intéresse au premier chef, consiste à faire surgir du néant avec des mots, ça c'est la magie, des scènes dont on ignore tout, donc quand on ne se souvenait pas qu'on se souvenait, de les installer comme avec une boule magique ou un jardin japonais, et une fois que la scène est écrite, elle existe, elle est là. Quant à dire si elle est vraie ou pas, c'est encore une autre affaire. Je prétends pas spécialement, d'ailleurs, à la véracité. Enfin, la véracité, en tout cas, à la vérité historique. Il n'y a pas de vérité historique de l'histoire de ma mère, d'autant plus que les bribes d'histoire arménienne ou grecque que j'ai évoquées tout à l'heure, en vérité, il y a des controversions. Il y a presque des controversions sur tout. Des deuxièmes versions, des autres façons de le dire. Et comme disait James Salter, que j'aimais beaucoup, tout ce qui n'est pas écrit disparaît. Mais ce qui est écrit donne une version des choses. Les écrivains ont souvent écrit sur leur mère. C'est peut-être plus les écrivains mâles que les femmes.
Aux femmes écrivaines le père, plus traditionnellement, et aux hommes la mère. Il y a des deux.
Peut, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des grands portraits de mère dans la littérature. Je pense à Romain Gary, je pense à Joseph Brodsky, bon, ne parlons même pas de Marcel Proust, mais j'ai pas mal pensé à Romain Gary. Ça a beaucoup à voir. Il y a une façon de d'être dans la patridie et la littérature qui est proche.
De l'amant de Marguerite Duras aussi.
Et Marguerite Duras, très bonne.
À un amour impossible, plus contemporain de Christine Angot. Qu'est-ce que trouve l'écrivain dans cette confrontation à la figure de la mère? Un exercice difficile, disait justement Christine Angot. Écoutez.
Le lien, l'amour qu'on a pour sa mère, on se le rappelle et on y pense et on reconnecte, que le lecteur puisse reconnecter lui aussi cet amour-là qu'il a eu pour sa mère et comment il a évolué. Parce que ça évolue. Enfin, ça n'évolue pas forcément, mais en tout cas les manifestations de cet amour évoluent au fil du temps et à mesure qu'on grandit, ce qui est assez naturel, puisque il faut s'en éloigner, puisqu'au départ on est à l'intérieur d'elle, donc on doit s'en éloigner.
Et vous, Geneviève Brisac, qu'est-ce que vous avez trouvé à vous confronter à cette figure de votre mère comme écrivain?
Bien sûr, parce que contrairement à Christine Angot que vous évoquiez, ma mère était écrivain, donc ça rajoute quelque chose de une complication en fait, une complication.
Mais on sent aussi cette difficulté à passer d'une peau à l'autre, en fait. Hein. À la fois de devoir se glisser dans la tête et dans la peau de sa mère pour essayer de la comprendre. Et il est beaucoup question des corps aussi, hein, dans votre récit roman. Je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs, comment vous le qualifiez, un roman.
C'est un roman.
Dans Le Chagrin d'aimer. Il est beaucoup question des corps, mais il est aussi beaucoup question de ressenti. Il a fallu essayer de comprendre ce qu'elle était, ce qu'elle éprouvait, ce qu'elle ressentait. Qu'est-ce que l'écriture de ce livre a provoqué en vous, Geneviève Brisac?
Alors, je ne dirais pas que j'ai essayé de comprendre ce qu'elle ressentait. J'ai plutôt essayé de la faire exister, de la susciter, de la faire exister, de la donner à entendre, de la donner à voir. Ça passait pas par l'intellect, ça passait réellement par des sensations et le son. C'était intéressant que vous évoquiez Marguerite Duras et Christine Angot. C'est même vraiment très intéressant, cette confrontation. J'ai beaucoup pensé à la mère de Marguerite Duras, que j'ai beaucoup fréquentée, fréquentant beaucoup les livres de Marguerite Duras. Et en particulier dans le cahier, comment ça s'appelle, ce cahier où elle reprend des récits plusieurs fois de l'amant, du barrage. Il y a des scènes extraordinaires de confrontation avec sa mère. Et il y a une scène inoubliable où sa mère, qui est un phénomène quand même, tombe dans un escalier du métro. Et là, Marguerite Duras a un fou rire assez peu amical, mais irrésistible, et sa mère aussi a un fou rire, et elle dit on avait vraiment une grande complicité dans le fou rire. Alors c'était pas du tout mon cas, j'avais absolument pas de complicité dans le fou rire, et d'ailleurs assez peu de complicité en général. Ma complicité avec ma mère, ce qui ne se trouve ni chez Christine Angot, ni chez Marguerite Duras, ni chez Annie Ernaux, ni chez aucune écrivaine à laquelle je peux penser, c'est la littérature, c'est les contes, c'est la mythologie, c'est les personnages, c'est l'art en fait. C'est-à-dire que ma mère avait choisi délibérément le nuage de fumée, le nuage de rêve, le nuage du langage, tout à fait contre la réalité, le monde et les gens auxquels elle n'attribuait pas beaucoup d'intérêt ni de crédit. Et moi, je me suis construite contre ça, c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressée aux gens, à la réalité, aux sentiments, aux sensations, craignant, enfin, du moins, parce que son exemple me donnait à penser que le langage tel qu'elle le pratiquait, l'écriture telle qu'elle la pratiquait, était coupée du réel et de la vie. C'est-à-dire que si j'ai une chose méchante à dire sur ma mère, c'est non pas que c'était pas une mère sympathique, c'est que c'était un mauvais écrivain, ce qui est certainement la plus méchante chose que je puisse dire, mais c'est le lieu où pour moi la compétition s'est forgée. Et j'ai honte même de vous dire ça aujourd'hui sur ce plateau, mais je me suis rendu compte en m'observant que je pouvais l'accréditer de toutes sortes de choses, le brillant, la drôlerie, l'originalité, la fantaisie, la créativité, tout ce qu'on veut, mais que jamais, à aucun endroit dans ce livre, vous ne verrez que je l'accrédite d'être un bon écrivain.
Mais c'est pas le seul lieu de la rivalité hein, que vous racontez, en tout cas dans Le Chagrin d'aimer, parce qu'il y a quand même vraiment celui aussi du désir. On sent que vous avez développé, en tout cas enfant, avec elle une relation très ambivalente entre fascination et rejet pour cette femme qui était quand même très excentrique. Et vous allez d'ailleurs jusqu'à convoquer directement le complexe d'Électre. Ce qui est particulier, c'est que quoi, elle-même n'acceptait pas ou n'aimait pas tant que ça le fait d'être une femme. Hein. Elle détestait, vous l'écrivez, les bébés, elle détestait les vacances en Bretagne, elle détestait Françoise Sagan, mais plus que tout, elle détestait les femmes. Les femmes sont une sale engeance et Célimène est la pire, la coquette du misanthrope. Comment devenir femme avec une mère qui, elle-même, ne se vit pas femme ou ne s'apprécie pas comme femme ?
C'est pas le chemin le plus facile, c'est certain. C'est pas le chemin le plus facile. Il y a pas de modèle, quoi. Donc c'est certain que c'est difficile. Et c'est vrai que, et en même temps, ma mère donc n'aimait pas du tout. Non, c'est vrai que ma mère indiquait clairement qu'être une fille et une femme était un très mauvais choix. Mais il se trouve que ce n'est pas un choix. Donc on fait. Mais je crois que là aussi.
Mais elle allait jusqu'à rabrouer votre propre tentative d'appréhender votre féminité, hein, quand vous écrivez qu'elle vous dit tais-toi ma fille et cesse de te regarder dans les miroirs, c'est ridicule et c'est malsain.
Alors c'est aussi le puritanisme d'une époque, enfin pas généralisé, mais en tout cas dans certains milieux, c'est certain que c'était très... Ma mère était extrêmement répressive, c'est sûr, et effectivement dans la rivalité, vous avez raison. Elle rappelle aussi beaucoup la mère de Virginia Woolf, de ce point de vue-là, qui combat la féminité de ses filles, n'en veut pas, c'est elle la femme, c'est elle la reine de la ruche, c'est elle la reine des abeilles, il n'y a pas place pour plusieurs. Bon ça c'est un, comment dire, c'est un vieux, une vieille... un vieux fil de l'humanité. Mais c'est pas ça qui m'intéresse fondamentalement. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi ce qui est partageable. Parce qu'après tout, indépendamment de l'éventuelle force ou beauté du portrait et du livre, j'ai toujours pensé que quand on écrit un livre de ce genre-là, il ne parle pas que de soi, il parle de beaucoup d'autres. Sinon, ce serait pas tellement intéressant. Je pense que ce livre renvoie, et d'ailleurs on me l'a dit dans plusieurs rencontres en librairie, il renvoie à une génération de femmes qui, comme moi, sont nées dans les années 50-60 et donc dont les mères ont voulu être libres, indépendantes et ne pas subir les effets fâcheux de l'oppression des femmes et donc ne sont pas beaucoup occupées de leurs petites enfants. Qui en ont souffert et ça je l'ai retrouvé plus d'une fois parce que c'est et ça n'empêchait pas moi quand j'étais petite vous dites j'avais des sentiments ambivalents envers ma mère non petite j'avais des sentiments passionnés
et vous aviez honte parfois il y avait la fierté
oui,
il y
mais
avait
plus
la
tard
honte.
Oui ouais. Plus tard mais petite bon, alors, je suis comme Virginia Woolf je la regarde elle est belle elle fait pas attention à moi mon Dieu comment faire pour qu'elle fasse attention à moi elle ne fera jamais attention à moi elle ne m'écoutera jamais et ça c'est comme ça.
Alors il faut trouver les mots aussi pour que chacun s'identifie, les mots aussi pour être en paix avec soi-même. Comment trouver les mots ? Écoutez Virginia Woolf en 1937.
It is words that are to blame. They are the wildest, freest, most irresponsible, most unteachable of all things. Of course, you can catch them and sort them and place them in alphabetical order in dictionaries. But words do not live in dictionaries. They live in the mind. If you want proof of this, consider how often in moments of emotion, when we most need words, we find none. Yet there is a dictionary. There at our disposal are some 500,000 words, all in alphabetical order. But can we use them? No, because words do not live in dictionaries, they live in the mind.
Voilà, les mots ne vivent pas dans des dictionnaires, ils vivent dans l'esprit de l'auteur, des écrivains aussi. « It is words that are to blame », dit aussi Virginia Woolf dans cet unique enregistrement de sa voix, d'elle, en 1937, diffusé sur la BBC à l'époque. Geneviève Brisac, trouver les bons mots, les mots qui parlent à tous, les mots qui mettent aussi des couleurs sur ses visages, c'est une autre particularité. Vous le connaissez cet enregistrement?
Je l'adore, j'adore cet enregistrement, c'est comme un espèce de morceau de musique magique pour moi. Words, words, words.
il faut aussi imaginer la difficulté qu'on peut avoir à penser la vie d'une femme qui finalement n'a jamais voulu elle-même rendre sa vie concrète, ou en tout cas qui a toujours choisi de la rêver. Vous racontez votre mère comme un personnage romanesque, et elle l'était sous votre plume. Elle est tour à tour une héroïne de roman, une sorte d'Emma Bovary des temps modernes, dans sa petite voiture qu'elle habitait. Une Don Quichotte, une princesse arménienne, un personnage mythologique entre Galatée et Nausicaa. Et puis c'est une femme totalement immortelle. Je vous cite encore, Mélanie n'était pas du genre à mourir. Elle disait en ricanant, si je meurs un jour, et la phrase restait suspendue dans les airs. Pour en être plus sûre, elle évitait les enterrements ou, comme tu sais, accourt un tas de bonnes femmes hypocrites qui n'ont rien de mieux que de venir regarder sous le nez des pauvres gens en deuil, faire partie d'un troupeau de pleureuses. Merci bien, disait-elle. Et en même temps, elle était terriblement humaine, et vous la racontez à travers aussi tous ces détails du quotidien. Ce qui nous ramène à cette figure de la mère qu'on peut tous éprouver aujourd'hui, aux mots de Christine Angot tout à l'heure, à ceux de Virginia Woolf. Quelle est la figure mythologique presque de la mère qu'on attend à retrouver dans la sienne et qu'on est parfois contrarié de ne pas retrouver? Quelles sont, vous, ces influences littéraires que vous avez pu avoir aussi, ou mythologiques, et avec lesquelles vous avez comparé votre mère si quotidienne, si humaine, même si elle se pensait immortelle?
Non, je ne peux pas vous laisser dire qu'elle n'était pas du tout quotidienne. Ma mère n'avait aucun geste de la vie quotidienne, à part fumer et boire des bières.
Et soupirer, souffler fort, lever les yeux au ciel, grimacer, comme vous l'écrivez.
Des gestes de la vie quotidienne, des gestes de l'exaspération. Il y a un autre personnage de mère qu'on n'a pas évoqué et que j'adore aussi, c'est la mère de Flannery O'Connor. Flannery O'Connor a vécu toute sa vie avec sa mère parce qu'elle était très très malade, et elle lui donnait parfois à lire, sa mère qui s'appelait Regina, plus qu'elle n'aidait pas spécialement, elle lui donnait à lire ses manuscrits, et Regina partait avec le livre dans un rocking chair et elle s'endormait à la page 7. Puis quand elle se réveillait, elle disait « Ma chérie, pourquoi t'écris pas autant en emporte le vent ?» Donc, je pense que effectivement, l'écriture des filles se fait forcément, contre le rejet des mères, enfin des filles et des fils probablement aussi. Je peux pas répondre à votre question puisque je n'ai pas. Vous parlez à une autodidacte de la maternité. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vous vous souvenez de ce film d'Isabelle Huppert qui s'appelle La pianiste, et la pianiste n'a aucune idée de ce que c'est que la sexualité, pour faire une association intéressante, et donc elle est obligée de chercher dans les livres. Et ça m'a toujours intéressée, cette scène, ça ressemble à ça. Moi, j'ai cherché ce que c'était qu'une mère dans les livres. Donc j'en ai une infinité de modèles à ma disposition, et quand moi-même, à mon tour, j'ai eu des enfants, effectivement, je n'avais aucun modèle à ma disposition. Alors peut-être n'en a-t-on jamais, mais enfin, je n'en avais particulièrement pas. Et donc, en tant que néophyte et autodidacte, c'est vrai que j'ai navigué dans des eaux mauvaises à boire, comme disait l'autre, en essayant d'inventer ce que c'était, et c'était très très angoissant.
Est-ce que vous avez aussi cherché dans les livres ce que c'est qu'être une femme? Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Margaret Atwood, la grande romancière, auteure de La Servante écarlate, qui assume un certain parti pris, voire engagement par l'écriture, celui de la lutte pour l'égalité homme-femme dans et par la fiction.
Dans mes romans, des femmes ont des voix, leurs voix. Ils ont des personnages complets, elles ont toutes sortes de pensées, des pensées rebelles, des pensées triviales, juste comme tout le monde féminin. Alors, si vous pouvez voir un autre être humain comme un être total, c'est très difficile de décrasser un personnage comme ça. qu'est-ce que ça veut dire? Si d'être féministe, c'est-à-dire que les femmes sont des êtres humains, oui, je suis féministe. Si ce mot va dire que les femmes sont des anges et elles sont une sorte de perfection, non, nous savons tous que c'est pas vrai. Si ce mot va dire que les femmes doivent avoir des droits, comme gagner leur argent, posséder leurs immeubles et tout ça, oui. Et vous aussi, monsieur. Et on continue avec tous les trucs dans la liste.
Margaret Atwood, question vers vous, Geneviève Brisac. Ça, c'est vraiment une romancière qui parle des femmes aussi et de la condition féminine, même si c'est pas le sujet premier, par exemple, de la Servante écarlate, mais avec laquelle on apprend. Elle l'accepte pas comme telle, justement. C'est ce qu'elle dit sur sa définition à la fois du féminisme et de son écriture. Elle a pris le parti des femmes, mais c'était pas l'objectif premier. C'était presque coulé de sa plume.
Oui, c'est-à-dire que Margaret Atwood, j'ai lu un entretien d'elle formidable dans le dernier numéro de la revue America. Donc, elle parle de ce livre, La Servante écarlate, qui est paru il y a 30 ans et qui est d'une actualité tellement criante qu'aujourd'hui, on est des millions à se ruer sur cette série, puisque le livre a été adapté. Et d'ailleurs, je trouve ça terrible qu'il faille, effectivement, que les livres deviennent des films ou des séries pour qu'on y prête attention, vraiment, vraiment. Mais bon, ça, c'est encore un très vaste débat sur la place de la littérature aujourd'hui. Moi, je crois que la littérature, et le chagrin d'aimer évidemment à sa place là-dedans, parle de nous, de notre monde et de notre monde d'aujourd'hui et de demain. Et alors elle parle du monde d'aujourd'hui dans cette interview. Elle explique comment la Servante écarlate parle du monde d'aujourd'hui et de demain et comment on s'approprie le corps des femmes, c'est ça. Et on voit bien comment on s'approprie le corps des femmes partout dans le monde aujourd'hui à travers les questions de violence, de viol, enfin, on ne va pas revenir sur ce qui se passe en Syrie ou en Afrique ou dans, enfin bref, etc., etc. Et alors elle dit, j'aurai pas le temps de vous retrouver la citation, mais elle explique bien comment cette appropriation des femmes, contrairement à ce qu'on croit, reste à l'œuvre et comment les gestes violents qu'elles font pour s'en dégager sont si douloureux et difficiles. Et c'est aussi de ça dont je parle tout le temps à travers tous mes livres.
Et La Servante écarlate, vous le disiez, c'est aussi une série aujourd'hui. Donc le livre a été traduit en 87 en France. On peut bien sûr le lire et le retrouver aujourd'hui. Et la deuxième saison de cette série américaine va être diffusée en France. Ce sera sur OCS à partir du 26 avril.
Et on s'en réjouit parce que c'est une série qu'on adore tous.
Merci beaucoup Geneviève Brisac. Le chagrin d'aimer vient de paraître chez Grasset. Merci.
Merci Olivia Gesbert.